Louis-Marie Solaire, qu'avez-vous retenu pour nous parmi les nouveautés ciné de la semaine?
Jonathan, et vous me pardonnerez, mais je vais encore faire un écart aujourd'hui. Avant de vous parler des nouveaux films, je voudrais commencer par évoquer Christine Boisson, une actrice française marquante des années 80, qui vient de nous quitter trop tôt. À 17 ans, Christine Boisson marque les esprits avec le personnage de Marie-Ange, l'adolescente délurée et troublante qu'elle incarne dans Emmanuel. Le succès du film de Jules Jekin l'a conduit à des rôles marqués par la sensualité dans des films signés Michel Deville, Alain Grobe-Grillet ou encore Jacques Deray. C'est un passage par le Conservatoire d'art dramatique qui va lui permettre de se sortir du piège de cette notoriété due essentiellement à la plastique de son corps dénudé. Au théâtre, elle travaille avec les plus grands, Claude Régis, Roger Planchon, Luc Bondy. Et c'est au virage des années 80 que Jacques Brel lui permet de révéler à l'écran un talent dramatique exceptionnel. Pour lui, elle est Cora, l'inoubliable chauffeur de taxi d'Extérieur Nuit. Elle devient alors une figure du cinéma d'auteur, notamment avec Identification d'une femme de Michelangelo Antonioni et surtout Liberté la nuit de Philippe Garrel. Elle collabore également avec des réalisateurs comme Miklos Jankso et Daniel Schmitt, tout en jouant dans des films grand public, Rue Barbare et Le Passage notamment. À partir des années 90, elle tient principalement des seconds rôles pour Claude Lelouch dans Il y a des jours et des lunes, ou encore Olivia Sayas dans Une nouvelle vie. Elle fait aussi des apparitions dans des téléfilms et des séries. Il faudra attendre 2009 pour la revoir sur grand écran dans le film de May Wen, Le bal des actrices. Christine Boisson est décédée le 21 octobre 2024 à l'âge de 68 ans.
Alors, Louis-Marie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Christine Boisson?
Oui, quelque chose de personnel, et vous allez voir, ça risque de vous faire bien rire. En 1990, à Cannes, elle était la présidente du jury de la Caméra d'Or, et moi, trop heureux d'être sur la croisette pour Radio Présence, j'ai réussi à avoir une interview avec elle.
Oh, félicitations.
J'étais, et je suis toujours, un fan absolu, débordé par mon admiration, rêvant aussi de l'entendre me proposer de l'accompagner dans sa fin de journée de présidente du jury. Quand on débute, Jonathan, je vous entends rire, on pense à tort qu'on va devenir, si ce n'est ami, au moins copain avec tous ceux qu'on interviewe, quel que soit leur statut. Emporté donc par l'enthousiasme, je me suis complètement planté. J'ai été très mauvais, très mauvais. Me trompant dans les dates, la chronologie de sa carrière, les réalisateurs avec lesquels elle avait travaillé, tout quoi. Si bien qu'à la fin de notre entretien, elle est vite partie en grommelant à peine un au revoir. Ah. J'ai cherché parmi les enregistrements que je garde précieusement cet entretien mémorable pour vous en faire écouter un extrait. Mais je ne l'ai pas retrouvé, sans doute un acte manqué.
Bah ça vous va pas, d'habitude vous êtes toujours très bon Louis-Marie, mais là peut-être vous avez l'excuse de la jeunesse, voilà, vous débutiez, donc c'est pas grave, ça arrive, mais ça vous fait une belle anecdote justement. Alors c'est pas très glorieux quand même, mais on va en revenir à l'actualité et surtout à vos très bons conseils. Qu'est-ce que vous avez sous le coude aujourd'hui?
Eh bien le biopic de la semaine. Vous savez, le biopic a un genre très tendance. Monsieur Aznavour s'inscrit donc dans cette tradition ici à la française qui rend hommage aux grandes figures de la chanson, à l'instar de La Môme pour Édith Piaf ou Clo-Clo pour Claude François. Ce long métrage retrace la vie du chanteur depuis son enfance modeste au sein d'une famille d'artistes arméniens émigrés à Paris jusqu'à son ascension vers une renommée internationale. Les réalisateurs Grand Corps Malade et Mehdi Idir mettent en lumière son parcours exceptionnel, notamment son début de carrière aux côtés d'Édith Piaf et son succès sur les plus grandes scènes mondiales, avec une admiration évidente pour l'artiste et son héritage. C'est Charles Aznavour lui-même qui a choisi Grand Corps Malade et Mehdi Idir pour réaliser son biopic, impressionné par leur film Patient. Mehdi Idir.
Avec Grand Corps Malade, et on travaille avec notre producteur qui s'appelle Jean Rachid, qui est le gendre de Charles Aznavour. Juste après Patient, Charles lui a fait part de son souhait de faire un biopic sur sa vie. et qui voulait trouver des réalisateurs pour ça. Du coup, il lui a confié le projet, et lui, tout de suite, il lui a parlé de nous, et il lui a montré surtout notre premier film, Patient. Et tout de suite, ça a intéressé Charles, qui a toujours été, on peut le voir aussi dans le film, qui a toujours été pour pousser les plus jeunes. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. On a commencé un peu à travailler avec lui, et puis nous, on était contents parce qu'on devait l'avoir en consultant sur le film. Et le jour du lancement officiel de la production, voilà, on devait faire une réunion avec nos producteurs et lui, et c'est le jour où il est décédé. On a décidé de mettre le projet de côté. On ne se voyait pas de faire un biopic tout de suite sur quelqu'un qui venait tout juste de décéder. On a fait notre deuxième film, La vie scolaire, une fois qu'on est...
Mehdi Idir et Grand Corps Malade ont abordé le projet avec respect, visant à condenser la vie de l'icône de la chanson française en un peu plus de 2 heures. Le film est structuré en 5 chapitres, chacun nommé d'après une de ses chansons, reflétant ainsi à quel point elles étaient inspirées par sa vie personnelle. Mehdi Idir.
Le premier truc qu'on a fait avec Charles, c'est de tout lire sur lui, de tout connaître sur lui et d'écrire déjà la timeline de sa vie. Donc on a fait un très gros document qui expliquait étape par étape, année après année, ce qui s'était passé. Il y a des choses qu'on a tout de suite enlevées parce que ça nous intéressait moins, et tout de suite on a eu ces 5 parties qui se distinguaient. Et surtout, ce qui se passe, c'est que comme les tubes de Charles sont venus, viennent tard dans le film, on s'est dit... On va mettre les 2 guitares et montrer plutôt ce qui a inspiré Charles. Pourquoi à un moment donné il a écrit cette chanson. Ça nous permettait en plus de mettre des tubes très très tôt dans le film, et ça nous permettait de structurer notre film en 5 parties.
Malgré la richesse de son sujet, plus de 1200 chansons, une carrière internationale et des tournées mondiales, le film reste classique dans sa forme et manque d'audace. La mise en scène sans véritable point de vue ni prise de position ne parvient pas à capturer pleinement la complexité de l'homme derrière la légende. Le film tient par la performance de Tahar Rahim, il incarne Aznavour. Grâce à une préparation minutieuse et des rencontres avec la famille du chanteur, Rahim a su capter le langage corporel, la voix traînante et le charisme inattendu du chanteur. À ses côtés, Marie-Julie Bopp est touchante dans le rôle d'Edith Piaf, celle qui prendra le jeune Charles sous son aile, lui indiquant ainsi le chemin du succès. Monsieur Aznavour reste une fresque musicale sans aspérité et un gâteau d'anniversaire un peu trop bourratif pour celui qui aurait eu 100 ans cette année.
Deux ziganes sans répit grattent leur guitare, raniment du feu.